Quelle joie! Quelle joie! Nous attendons son retour. Bon, on pourrait continuer, mais j'ai quelque chose à vous apporter aussi sur notre thème, le regard sur soi, la confession. Et en fait, je voulais quand même vous dire que je vais vous donner une autre série de lectures pour cette semaine. Avec au niveau des questions ou des étapes, on va ajouter une nouvelle question qui va aussi dans le sens de l'écoute de Dieu. Et la question est la suivante. Seigneur, sonde ma vie et mon cœur. Y a-t-il quelque chose que tu désires que je confesse? Y a-t-il quelque chose auquel tu veux que je renonce? Et en fait, comme on a dit, cette question est en quelque sorte incluse dans la prière du Seigneur, le Notre Père, lorsqu'on prie ceci, pardonne-nous nos offenses. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mes frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, c'est qu'on a réalisé, on a pris conscience de notre énorme besoin de pardon. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que nous qui avons reçu Jésus dans notre vie, il nous a pardonné de tous nos péchés, présents, passés et futurs. C'est la puissance de ce qui est arrivé à la crucifixion. La Bible nous dit que si nous avons placé notre foi en Christ, nous sommes justifié par la foi, c'est une expression de la Bible, et on peut le dire aussi d'une autre manière, nous sommes pardonnés par la foi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Même le plus grand des pécheurs, même la plus coupable des criminels peut recevoir le pardon de Dieu, être sauvée. Elle peut être sauvée sur le champ en se tournant vers Christ et être sauvée pour l'éternité. Ce n'est pas à elle de mériter le salut par ses bonnes actions. Ça ne serait même pas humainement possible de travailler fort à ce point. Il y a une autre solution, il fallait que ce soit Dieu qui y pense. Dieu est devenu homme. L'Éternel a pris la forme d'un humain en commençant par un bébé à Noël. Et il en est venu à prendre notre culpabilité sur lui-même. C'est ce qu'il a porté lors de son exécution sur la croix, puni à notre place. En croyant en lui, il y a un échange merveilleux qui se passe. Je lui donne ma culpabilité, puis lui, en retour, il me donne sa justice. Quel merveilleux échange pour moi! Quelle bonne nouvelle! La parole de Dieu nous assure que ce pardon-là, qu'on reçoit à travers la foi, elle a une solidité légale. Il y a un côté légal, officiel à ce pardon-là. C'est juridique, c'est officiel. On est déclaré acquitté. Et c'est signé par le seul juge qui en a l'autorité, Dieu lui-même. Amen. Alors, dans ce procès-là, je ne suis pas vraiment innocent, mais Dieu me déclare innocent, alors je le deviens. Ça devient une nouvelle réalité. Et il me traite comme si j'étais innocent. C'est une des beautés de l'Évangile, mais c'est aussi le scandale de l'Évangile du point de vue humain. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais adolescent pour illustrer ce côté légal qui peut paraître scandaleux. Donc, moi, je faisais de la course de voile, donc les petits bateaux à voile à une personne ou deux personnes. On appelle ça des dériveurs. Et puis, les compétitions, ça durait pendant une journée ou deux journées. On appelait ça des régates. Et puis, donc, j'étais dans la catégorie des bateaux à deux personnes. Et cette année-là, on n'était pas pire, moi et mon partenaire. Et dans la finale régionale, ça, c'était dans l'Outaouais, mon partenaire et moi, on devait gagner la dernière course de la régate pour représenter l'Outaouais aux Jeux du Québec. Et, bonne nouvelle, nous sommes arrivés premiers à la ligne d'arrivée dans la dernière course. Est-ce que je pourrais avoir des applaudissements, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Mais pas trop vite, parce qu'en réalité, en arrivant, j'ai fait une gaffe, une fausse manœuvre, notre bateau a accidentellement heurté la bouée qui montrait la limite de la ligne d'arrivée. Et ça, là, ça vaut une disqualification immédiate. C'est dans les règlements. Oui. Mais, il y a des retournements dans mon histoire. Les juges ont délibéré longtemps et ils ont pris la décision d'acquitter notre équipe de sa faute. On a été pardonnés, entre guillemets. Ils ont déclaré que notre faute n'allait pas être comptée contre nous. Nous étions en réalité coupables, mais cela a été effacé pour telle raison. Et cela nous a mis dans une position de victoire. Ça pouvait paraître injuste, même scandaleux pour les autres compétiteurs, mais ce sont les juges qui ont décidé, ils en avaient l'autorité. Puis, ça c'est pas rapport vraiment, mais mon partenaire et moi, on est allés aux Jeux du Québec, on s'est fait planter, on n'a pas gagné. Mais ça, c'est revenons à notre question du salut. Nous avons reçu ce salut, c'est un peu comme ça, déclaré par un juge alors qu'on ne le mérite pas. Donc, c'est un pardon légal. Et maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre par rapport à notre relation avec Dieu. C'est que dans la réconciliation qu'il veut avec nous, on doit vivre le pardon à deux niveaux. Premièrement, le niveau légal que je viens d'expliquer, et deuxièmement, le niveau relationnel. Et ce deuxième niveau-là est très, très important aussi, et c'est le niveau de la vie quotidienne, de la marche continue avec notre Papa Céleste. Dieu veut non seulement que je sois pardonné légalement, mais il veut vivre avec moi dans une relation de papa à enfant où j'apprends progressivement à ne plus faire les choses, les mêmes choses qui me font du mal à moi-même, font du mal aux autres et blessent Dieu dans son amour pour moi et aussi dans sa sainteté. Et c'est là où la confession de mes fautes, la repentance et de recevoir le pardon, et j'ajouterais de pardonner aux autres. Voilà où ça entre en jeu de façon régulière, de façon quotidienne. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à vivre et à pratiquer. Alors, pour mieux comprendre les deux niveaux, j'ai un autre exemple. Pas de ma vie, mais de quelque chose peut-être que vous avez déjà vu. Donc, une famille qui a un enfant adoptif, admettons qu'il a adopté une petite fille, un couple qui légalement ont adopté un enfant, une petite fille qui est devenue la fille du couple. Mais admettons qu'elle se rebelle, cette fille, contre ses parents, qu'elle prenne l'habitude de ne plus les écouter. Elle a des tâches à faire dans la maison, mais elle décide de ne pas les faire. Elle désobéit au règlement de la maison. Et la relation entre les parents et elle devient très froide et tendue. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus leur fille? Non. Elle reste légalement leur fille. Est-ce que ça veut dire que les parents ne l'aiment plus. Non. Je vois beaucoup de gens qui font non. Et oui. Et par contre, est-ce que ça veut dire que tout peut continuer comme si de rien n'était? Non. Oui. Ceux qui ont répondu non trois fois, vous avez 100 %. Exactement. Il y a un problème sérieux à régler. La relation ne marche plus. Et pour la réparer, il y a une réconciliation à effectuer, à vivre. Afin de restaurer le respect, rétablir l'amour qui est normal et qui donne la vie. Donc, ma sœur, mon frère, oui, tu as absolument besoin de ce pardon légal, ce pardon une fois pour toutes. Et nous cultivons aussi une assurance dans ce pardon-là. On va parfois répéter cette merveilleuse promesse de Jésus qui dit « Mes brebis me connaissent, elles viennent à moi, personne ne va les ravir de ma main. » Nous sommes ancrés dans ce pardon-là. Mais, il faut ajouter quelque chose, tu as aussi besoin, comme cette petite fille, tu as besoin de cette relation personnelle avec Dieu qui continue, qui se nourrit avec ton Papa Céleste, celui que tu pries. Et pour cela, tu dois marcher dans son écoute. Et ça inclut la confession. Et ça inclut la réception du pardon à chaque fois que c'est nécessaire. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est possible pour une chrétienne ou un chrétien de ne jamais offenser Dieu dans sa vie quotidienne? Pensez-vous que c'est possible? Oh, je vous dis tout de suite, je limite la discussion à une minute. Mais je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est possible de jamais offenser Dieu? Oui, ta réponse est impossible. Toi, tu dis c'est impossible. Philippe? Impossible? Oui, OK. Ben, merci pour ces deux réponses. Vous allez voir ce que je pense là très bientôt. Il y a des églises extrémistes. En fait, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des églises extrémistes et il y a des chrétiens mal informés qui croient que lorsque Jésus vient vivre en eux, ils ne peuvent plus péché. Soit ils vont dire, ben non, j'ai passé de l'autre bord, Jésus est en moi, je suis maintenant indemne, je suis parfait. Ou d'autres qui vont dire, mais j'ai plus le droit de pécher. Et donc, ils vivent dans la peur que s'ils pêchent une fois, ils sont condamnés. Maintenant, à l'autre extrême, il y a des chrétiens qui vont dire, ben oui, on est sauvé, mais on est condamné à pécher continuellement et il ne faut même pas espérer de s'améliorer. Les deux extrêmes se trompent. Et là, évidemment, on cherche la réponse dans les Écritures elles-mêmes. Et ce qu'elles nous disent, c'est que quand Christ vient vivre en nous, notre vieille nature pécheresse, oui, elle est crucifiée, elle est enterrée. Voilà ce qui est signifié par le baptême. Et c'est la réalité aussi. Dieu nous donne une nouvelle nature. Et dans cette nouvelle nature-là, Jésus-Christ vient vivre sa vie en nous. Et nous progressons dans cette nouvelle manière de vivre. Que nous apprenons pas à pas. Un aspect de cette progression, c'est d'apprendre à renoncer au mal, à le reconnaître, à le confesser, à y renoncer. Et regardez comme exemple cet enseignement de Paul qui est typique de l'enseignement dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Voici ce qu'il dit aux Thessaloniciens, une église assez récemment fondée. Il dit aux chrétiens qui sont tout feu, tout flamme. Paul va quand même les louanger, mais il va leur dire aussi, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons, progressez encore. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. C'est que personne ne fasse tort à son prochain. Et il va continuer. Et c'est juste un exemple parmi d'autres. Si Paul mentionne ces péchés-là, c'est que clairement, ils existent encore, malheureusement, dans la vie des chrétiens. Mais ils sont en cheminement vers la sainteté, vers la manière de vivre que Jésus veut installer en nous. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Merci. Merci pour le « Amen ». Pour progresser comme la Bible l'enseigne, il faut être ouvert à Dieu pour reconnaître nos torts. Il faut être prêt à lui demander pardon. Et il faut aussi être pardonnant envers les autres qui cheminent avec nous. Okay? Donc, être ouvert à Dieu qui va nous révéler nos torts, être prêt à lui demander pardon, et le troisième il faut, c'est être pardonnant avec ceux avec qui on chemine. Nos frères et sœurs, et même ceux qui sont à l'extérieur de la foi chrétienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une chose qu'on remarque aussi dans cette prière, c'est que, justement, c'est une prière au « nous ». Hein? C'est une prière qu'on prie individuellement, très souvent, mais on dit « pardonne nos offenses », pas « pardonne mes offenses ». Oui, le « mais » est inclus, le « moi » est inclus. Mais le « nous » implique que nous sommes une famille qui grandit ensemble dans l'amélioration qui vient de notre Papa Céleste. Et on va se pardonner réciproquement et on va même apprendre à s'entraider à demander pardon à Dieu. Je donne un exemple simple. La Bible nous dit « ne mentez pas les uns aux autres ». Une manière qu'on peut mentir aux autres, c'est de cacher qu'on a une crotte sur le cœur, comme on dit, par rapport à elle, à l'autre personne. Qu'on a un ressentiment, mais on se dit « oh, mais c'est plus simple juste de le cacher et de faire semblant que tout est correct ». Mais au fond, on lui en veut parce qu'on y a, on lui a prêté 50 $ cet été, puis la personne a oublié de nous rembourser. Et puis, ce n'est pas réglé. Moi, je me souviens d'une fois où un frère, et il m'a dit, « Marc, tu ne te souviens pas? » Et je ne me souvenais pas. « Je t'ai prêté 50 $ C'est vrai. Et je lui avais dit que j'allais y rembourser, j'ai complètement oublié. Et je les avais dans ma poche, j'y ai donné tout de suite. Ça m'a permis de demander pardon à Dieu d'avoir été tête en l'air. Je n'ai pas fait exprès d'y voler 50 $ mais j'ai manqué d'attention, puis ça l'a mis, lui, dans une position où il se sentait mal. Et donc, cette honnêteté, dans la douceur, dans l'humilité, nous pouvons nous aider les uns les autres à demander pardon et aussi à nous améliorer ensemble. Pardonne-nous nos offenses. Nous avançons en communauté. Il est vrai qu'il y a des chrétiens, en fait, c'est peut-être pas mal tout le monde, qui ont de la difficulté avec l'autocritique. Difficulté. Peut-être que tu as de la difficulté à faire de l'autocritique. Là, je parle des gens qui sont solides dans leur bottine, qui ont une très haute estime d'eux-mêmes. Il y a un côté très bon à ça. Et souvent, c'est des personnes qui peuvent aller loin dans la vie, mais en même temps, pas trop loin, parce que c'est important d'être capable de faire l'autocritique. Et certainement, si tu deviens un suiveur de Jésus, l'autocritique, c'est important. Il faut que tu puisses apprendre à reconnaître tes torts. Quand tu viens à la communion, à la Sainte-Cène, comme on l'a eu la semaine passée, vous vous souvenez qu'est-ce que Lilette, elle nous a rappelé? Ce texte de, encore une fois, l'apôtre Paul, et lui a dû intervenir à Corinthe. Et il a dit aux Corinthiens, si nous nous examinions nous-mêmes, donc autocritique, hein, être capable de laisser Dieu nous parler de notre comportement, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, en fait, Dieu ne nous juge pas vraiment. Il juge que nous avons un comportement qui a besoin d'être corrigé, puis nous, on ne fait pas l'effort de le reconnaître. Alors, il va Dieu, dans sa bonté, est capable d'intervenir pour nous le montrer. Puis c'est jamais le fun. C'est jamais le fun. Donc, Paul est en train de dire aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour éviter que Dieu, dans son amour, ne soit obligé d'intervenir avec une discipline qui vient d'en haut. Est-ce que tout le monde me suit, là? Donc, c'est très, très important. Je vais vous lire une phrase ici, là, qui vient de Ray Dirksen. C'est un des enseignants dans le mouvement Réveil des Églises, où je suis une formation en ce moment, et je n'arrive pas à trouver la citation, mais il dit ceci. La repentance, c'est-à-dire confesser, suivi de changer d'attitude, changer de manière d'agir. La repentance est si importante pour Dieu qu'il va venir nous corriger si nous ne la pratiquons pas volontairement. Aïe, aïe! Mais tout ça, c'est dans l'amour de Dieu. Hein, je vais relire ça. La repentance est si importante pour Dieu qu'il viendra nous corriger si nous ne la pratiquons pas volontairement. Et on pourrait dire, malheur à moi si Dieu ne le fait pas. Pouvez-vous imaginer? Et en même temps, un autre aspect de notre prière, pardonne-nous nos offenses, c'est que nous confessons aussi dans cette prière les péchés dont nous n'avons pas conscience. Dieu les connaît. Mais il ne nous révèle pas tout. Et Dieu les pardonne quand même. Marchons humblement avec notre Dieu. Lorsqu'il nous révèle une faute, et il faut être ouvert, nous le confessons. S'il ne nous en révèle pas, on demande pardon quand même. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Et nous pardonnons aussi à ceux avec qui nous cheminons. Bon, on va peut-être arrêter là et en arriver à notre conclusion. Ce qu'on a vu ce matin, c'est deux niveaux, deux aspects du pardon. Bon, j'ai dit deux expériences du pardon. Le légal et le relationnel. Il faut vivre les deux et il faut avoir confiance, pleine confiance, que Dieu prend plaisir à nous pardonner à ces deux niveaux-là. Réjouissons-nous. Dieu aime pardonner et il en a beaucoup du pardon à donner. pensons à ces réalités lorsque nous prions. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et finalement, je vous rappelle cette autre petite prière qu'on peut inclure même dans nos temps de prière le matin. Seigneur, sonde ma vie et mon cœur. Y a-t-il quelque chose que tu désires que je confesse? Y a-t-il quelque chose auquel tu veux que je renonce? Évidemment, il y aurait tellement plus à dire. Comment on fait pour renoncer à un péché qui est ancré en nous, une addiction par rapport à quelque chose qui est mauvais? On va devoir parler de ça une autre fois. Pour le moment, je vous donne un autre exercice pour la semaine. 4 lectures ici dans l'Évangile de Matthieu. Vous pouvez prendre la photo. On va se limiter à 4 cette semaine parce qu'on va être occupé à préparer la fête. Et vous pouvez rajouter d'autres lectures, même dans le livre de l'Exode, n'est-ce pas, Benoît? Oh, je ne le vois plus. Il est parti. Et donc, ça, c'est Matthieu. Matthieu qui voit les choses d'une autre perspective. Il a d'autres données à nous faire connaître dans la naissance de Jésus.